Donc bonjour à tous, hein, bonjour à ceux que j'ai pas vus. Je suis vraiment contente d'être là ce matin parmi vous et je suis contente qu'on ait parlé de l'Avent, parce qu'il y a des églises où je n'ai pas encore entendu beaucoup parler de l'Avent. Et donc ça, voilà, effectivement c'est quelque chose d'important, ce temps de l'Avent, où on attend Noël. Et je vous invite à lire un texte. Alors, peut-être vous ne ferez pas tout de suite le lien avec l'Avent, mais... Voilà, c'est dans Marc 13. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Puis, il s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire « Faites bien attention, que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi !» et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. » Et je poursuis au verset 21. « Si quelqu'un vous dit alors « Le Messie est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît. Faites bien attention. Restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Restez vigilants. Oui, nous sommes invités à attendre le retour du Christ, à être vigilants. Et je vais reprendre juste quelques versets que je viens de lire pour vous les remettre en tête. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Faites bien attention, que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi !» Et ils tromperont beaucoup de gens. Si quelqu'un vous dit alors « Le Messie est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Restez donc vigilants. Restez vigilants. Et avant de poursuivre, je vous invite à un petit temps de silence. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que j'attends vraiment le retour de Jésus? Ou est-ce que je me satisfais de la situation actuelle? Voilà, avec quelle attente attendons-nous Jésus? Donc je vous invite à un petit temps de silence et à réfléchir à cette question. Oui, nous attendons le retour du Christ, enfin je l'espère. Et c'est vrai que parfois on oublie un peu, dans la vie quotidienne, on oublie un peu ce qu'on attend. Et nous attendons son retour, mais qui attendons-nous vraiment? Il y a plus de 2000 ans, on l'a vu tout à l'heure, d'autres étaient aussi dans l'attente. Ils attendaient le Messie. Mais qui était ce Messie? Qui attendait-il? Qu'attendait-il? Certains n'ont-ils pas été induits en erreur quand d'autres ont dit « c'est moi, il est ici, allez là-bas » Et le fait que le texte lu tout à l'heure commence par évoquer la destruction du temple est intéressant. Savez-vous qui a construit le temple? Alors le premier temple c'est Salomon, mais celui de l'époque de Jésus c'est plus celui de Salomon. Voilà, c'est Hérode, enfin il avait commencé à être construit avant, mais c'est Hérode qui a continué la construction. Hérode, qui se faisait appeler le roi des Juifs. Ben oui, il était roi en Judée, donc il se faisait appeler le roi des Juifs. Hérode, qui a construit le temple. Et pour beaucoup, le Messie attendu, c'était soit un homme politique, un guerrier qui renverserait le pouvoir de Rome, donc le roi des Juifs au sens humain du terme, c'était notamment les zélotes, des gens comme Judas qui attendaient ce type de Messie. C'était soit une figure religieuse, du style un grand prêtre, un prophète, qui redonnerait sa place au temple. Et en voyant ça, certains se sont même dit, j'ai vérifié quand même, mais il y a un certain mouvement qui pensait qu'Hérode était le Messie. Alors, il y aurait d'autres exemples de faux messies. Mais pour voir qui était ce Hérode, je vous propose de lire Matthieu 2. C'est un texte connu, hein, qu'on ne lit pas forcément en pensant à Hérode, mais plutôt en pensant au roi mage. Mais là, je vous invite un peu à vous focaliser sur Hérode. Donc, Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Donc Hérode, qui pense être le roi des Juifs, on vient lui dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?»« En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Il lui dira Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il envoya à Bethléem en disant Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que moi j'aille aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus dans l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ne s'étaient pas prosternés et n'avaient pas adoré Hérode. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. » Car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous, qui était à Bethléem et dans son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Dans tout le texte, on parle de Jésus comme le petit enfant, le petit enfant, le petit enfant. Et à côté de ça, on parle d'un roi sanguinaire. Une drôle d'image de Messie que cet Hérode, qui se dit roi des Juifs, mais qui tremble devant un petit enfant. Un roi des Juifs qui finalement n'avait pas plus de pouvoir que celui que les Romains voulaient bien lui laisser. Et les Romains eux-mêmes, leur pouvoir était limité. Un constructeur de temples, mais qui méprisait la religion, notamment quand ça le concernait. Le « tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, honore ton père et ta mère », il a quand même tué la moitié de sa famille et ses enfants. Et donc voilà, être religieux en construisant un temple, oui. Qu'est devenu le règne d'Hérode? Comme pour celui de beaucoup de dirigeants, Pharaon, César, Napoléon ou d'autres, il en reste quelques lignes dans les livres d'histoire, mais il n'y a plus personne qui les révère. Les grandes villes, le Caire, Athènes, Rome, ce ne sont plus les lieux de décision du monde. Peut-être aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'Amérique et les États-Unis qui décident tout, mais à l'époque, c'était Rome. Alors, voilà, l'Italie centre du monde, ça nous ferait rire, c'est pas sympa pour eux, mais aujourd'hui, on voit plus les choses comme ça. Même la Jérusalem actuelle n'est plus le centre du monde. Quant au temple, nous savons que ce que Jésus a dit sur sa destruction s'est réalisé en 70. Le temple a été détruit par Néron. Alors il y a un chant de Goldman que j'aime bien, donc je vais juste vous lire les premières paroles. « Géantes ces murailles, bâties de peine et de sang, plus hautes que nos batailles, défiant le poids des ans. Aujourd'hui, 4 vents feraient s'envoler ces tours, mais on jurait avant que ça durerait toujours. » Et c'est vrai qu'il y a des choses, on pense que ça durera toujours, que ça nous paraît indestructible. Cette chanson, je l'avais entendue la première fois à l'époque du World Trade Center, à des tours qui, géantes, le monde basé sur le capitalisme. Et finalement, qu'en restera-t-il dans quelques années? Nous plaçons le centre du monde au mauvais endroit. Nous nous leurrons sur ce qui a vraiment de l'importance. Nous voyons l'extérieur et non les fondations. Vous connaissez le texte qui dit... que ceux qui se confient en la parole de l'Éternel sont comme ceux qui ont construit leur habitation sur du roc. La tempête est arrivée et ça a résisté. Mais ceux qui n'ont pas entendu les paroles de Jésus ont bâti leur maison sur du sable. Elles étaient peut-être très belles, mais on voit actuellement, souvent aux actualités, les maisons bâties sur le sable. Dès que la tempête arrive, il n'en reste plus grand-chose. Et nous, sur quoi basons-nous notre espérance ? Sur un pays, sur une politique, sur un système économique, sur un mode de religion peut-être, Il y a une époque où certains disaient « hors de l'Église catholique, point de salut ». Peut-être maintenant aux États-Unis, on dit « hors du monde baptiste, point de salut ». J'espère que personne ne dit « hors des Ménonites, de chez les Ménonites, point de salut ». Au contraire, on espère qu'il y ait du salut en dehors de nos murs, et que le salut soit pour le monde entier, et que ce ne soit pas limité à un système religieux. Oui, si on se base sur la politique, l'économie ou autre, tout cela s'effondrera. Il faut se rappeler que Jésus est venu comme un enfant, fragile. Son père devait le cacher en Égypte, le protéger. Le Messie attendu est celui d'Ésaïe 53 que nous allons lire. Ésaïe, que certains disent que c'est le cinquième évangile. Qui a cru à notre prédication ? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Souffrant, mourant, abandonné. Qui veut croire que c'est l'image du Messie ? Mais sans Pâques, et ce texte annonce pas quand même, sans Pâques, Noël n'a aucun sens. Sans cette mort, sans cette souffrance, sans cet abandon, Noël n'a aucun sens. Si plus de 2000 ans après, on adore Jésus, ce n'est pas parce qu'il était un conquérant ou un religieux, mais parce que lui, le juste, est mort couvert de nos fautes, pour que par ses meurtrissures nous soyons guéris. Souffrant, mourant, abandonné. Et nous, qui attendons son retour, qui attendons-nous vraiment ? Un petit enfant qui plus tard sera souffrant, mourant, abandonné. Nous ferons-nous avoir par des faux messies qui disent « c'est moi, il est ici ». Avons-nous une juste image de Jésus tel qu'il reviendra ? Je pense qu'on peut dire non. Je pense que personne ne sait comment Jésus sera, comment il reviendra, de quelle manière il reviendra. Nous serons surpris, bouleversés, remis en question. Et j'espère juste qu'on n'aura pas un mouvement de rejet, qu'on n'aura pas calqué de fausses idées. Donc l'Apocalypse, entre autres, nous révèle certains aspects du retour de Jésus et de qui est, j'allais dire, qui sera Jésus. Enfin, qui est déjà maintenant Jésus et comment il se révélera. Et il y a un texte que je trouve très beau dans Apocalypse 5, qui d'abord parle de l'impuissance de l'homme à se sauver, à ouvrir le livre. Et ensuite, on voit la détresse de Jean qui écrit ces textes, qui pleure de désespoir en voyant cette impuissance. Et ensuite, l'espoir apporté par l'agneau. L'espoir et la vie, ça, c'est des choses qu'on trouvera dans notre Messie quand il reviendra. Et Apocalypse 5 nous donne plusieurs images de Jésus, du Christ. Et je vous invite, en écoutant le texte, à retenir un peu ces différentes images. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à cette sceau. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit: ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Puis je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau, debout comme offert en sacrifice. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Le Messie, alors, on sait bien que ce ne sont pas des images réelles, parce que là, le Messie est présenté comme le lion de Juda. Très peu probable que Jésus vienne sous la forme d'un lion, mais le lion, c'est aussi la force. Juda, c'est l'ancrage dans la foi, dans la terre promise. C'est aussi le rejeton de la racine de David. Racine de David, donc ça lui donne la légitimité héréditaire. Mais rejeton, c'est aussi une faiblesse. Même si c'est porteur de vie, c'est quelque chose de fragile. Il a aussi parlé de lui comme celui qui a vaincu. Oui, il a vaincu la mort. Et en même temps, il est parlé de lui comme l'agneau offert en sacrifice. Innocent, soumis, impuissant, mais aussi consacré à Dieu. L'Esprit de Dieu fait partie de lui. Il est assis sur le trône. Alors, sous quelle forme reviendra Jésus ? Difficile de se faire une idée, une image. Et en même temps, est-ce bien utile de savoir précisément sous quelle forme il reviendra ? Ce qui importe, c'est Dieu au verset 9 et 10. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Il nous a sauvés de toute nation. Il ne connaissait pas la France à l'époque. Il ne connaissait pas les États-Unis. Il ne connaissait pas. Et il a fait de nous, il nous a sauvés. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc on sera avec lui sur la terre. Et pour conclure, je vais lire encore le début d'Apocalypse 21 qui nous parle de cette promesse. Et c'est aussi ce que nous attendons, je l'espère. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui était avant a disparu. Voilà ce que nous attendons. Nous ne savons pas comment ça arrivera, mais voilà ce que nous attendons. Et tout à l'heure, Sophie a parlé des bougies comme paix, espérance, amour, joie. Oui, ces caractéristiques, c'est celle du Messie que nous attendons. Terre nouvelle, monde nouveau, ce qu'on vient de lire. Pour sauver son peuple, Dieu va venir. On l'a chanté tout à l'heure et je vous laisse ça comme pensée pour la suite aussi.